Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Après avoir secoué plusieurs pays en Europe, la grogne agricole gagne la France ces derniers jours, menée principalement par les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs. Les actions des agriculteurs vont se multiplier toute la semaine en France, après un lundi 22 janvier déjà bien actif. Alors que les syndicats attendent des réponses concrètes du gouvernement français et de Bruxelles. Plus qu'une crise globale des revenus, c'est un ras-le-bol qui s'exprime, pointe le sociologue François Purseigle dans Ouest France. Après 2 années d'embellie, le revenu agricole reculerait de 9% en 2023, selon les estimations de l'INSEE. Que reprochent les agriculteurs à l'Europe ? Bruxelles est souvent pointée du doigt dans les mobilisations. Même si la plupart des agriculteurs ont bien conscience de l'importance de l'Europe et de sa politique agricole commune, PAC. Mais certaines demandes sont mal comprises, notamment celles émanant du pacte vert de l'Europe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le monde agricole se dit prêt à mener des transitions, mais estime que les moyens nécessaires sont insuffisants. Et c'est pas tout. Les agriculteurs dénoncent les incohérences du gouvernement sur la transition écologique. Article du Figaro et de l'AFP. Refuser de mettre des moyens pour aider les paysans qui sont engagés dans des changements de système agricole, c'est un choix que fait l'État de ne pas aller vers la transition agroécologique. Mensonge, mépris, des discours, aucune parole. Les agriculteurs exigent le financement de mesures agro-environnementales et climatiques MAEC, décrites comme un outil clé pour la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France. Financé à 80% par l'Union européenne à travers la PAC, Politique Agricole Commune, ces aides MAEC viennent compenser les surcoûts et manquements à gagner, liés à la transition écologique des fermes. Favoriser les prairies, développer l'élevage de plein air, planter des haies, utiliser moins ou pas d'engrais et de pesticides. Les syndicats alerte sur la fragilisation de paysans qui ont pris des mesures d'adaptation au climat et dont les dossiers vont être refusés faute d'un budget suffisant. Ici, le seul qui ne respecte pas ses engagements, c'est l'État, déplore les agriculteurs.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Quels sont les impacts du numérique sur la santé ? Souvent décriés, les écrans peuvent aussi avoir un retentissement majeur sur la santé. Notre santé est-elle en danger ? Autant de questions que nous posons à Servan Mouton, neurologue à Neuville-sur-Saône, spécialiste du sujet numérique et santé.
Les impacts sur la santé sont très globaux. En fait, on a tendance à les morceler, ce qui ne permet pas d'appréhender les enjeux qui sont réellement majeurs en termes de santé individuelle, en termes de santé publique aussi, à court terme, à moyen et à long terme. On peut considérer un peu de gros volets, c'est ce qui est de l'ordre du neurodéveloppement, de la santé mentale, et puis l'autre gros volet, c'est la santé plutôt somatique, physique, ce qui est en lien avec les troubles du sommeil, le manque d'activité physique et la sédentarité, également les troubles visuels. Et tout ça est assez tentaculaire. Les ramifications sont vraiment partout. Elles sont liées au contenant lui-même, à la technologie numérique, et aussi aux contenus qui peuvent être proposés et qui peuvent être inappropriés, que ce soit des contenus violents, pornographiques, certaines publicités, etc. Donc c'est vraiment la santé globale qui est mise en cause quand on est au contact des écrans. Je ne veux pas vraiment laisser entendre que je considère que ce sont des outils à bannir de nos vies, à éliminer, que le numérique doit être absolument quelque chose à détruire. C'est pas du tout ça, mais il faut simplement prendre conscience réellement que c'est un outil et qu'il a tendance aujourd'hui à nous asservir plutôt qu'à nous servir, et qu'il est temps de réfléchir aux usages qui sont pertinents pour les choisir et de mettre de côté ceux qui ne le sont pas.
Une étude réalisée dans le département d'Ille-et-Vilaine a déterminé que les enfants exposés aux écrans le matin avant d'aller à l'école, sans échanger sur ce qu'ils pouvaient regarder, avait 6 fois plus de risques de développer des troubles primaires du langage.
Alors, les études concordent en fait avec ce qui est ressenti sur le terrain. Sur le côté langage et attention, ce qu'on admet généralement, c'est que l'exposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans a des conséquences négatives sur l'acquisition du langage et le développement de leur capacité attentionnelle. Ça ne veut pas dire qu'après 3 ans, ça va être totalement anodin. C'est simplement que peut-être que les effets seront moins marqués, mais ils restent présents aussi. En ce qui concerne le langage, c'est facile à expliquer, c'est simplement que les contenus de tout ce qui est audiovisuel sont moins riches qu'un support écrit et que le vocabulaire de l'enfant va s'enrichir essentiellement par le contact avec le langage écrit, donc des histoires qu'on va lui lire, puis ensuite qu'il va apprendre à lire lui-même et prendre plaisir à lire et donc continuer à enrichir son vocabulaire, lire encore plus facilement, etc. Ça, c'est un cercle vertueux. À l'inverse, un enfant qui ne va pas être exposé à ce langage écrit et qui va avoir baigné dans un environnement essentiellement audiovisuel, donc avec un langage assez pauvre, va avoir un langage oral d'abord plus pauvre, donc une entrée dans l'écrit plus difficile. Et à l'inverse de ce cercle vertueux, ce sera un cercle vicieux où il va avoir de plus en plus de mal à enrichir son vocabulaire et l'écart va se creuser comme ça entre des enfants qui auront dès le départ des différences en fait de niveau de vocabulaire, notamment lorsqu'ils ont déjà 2, 3, 4 ans.
7 Français sur 10 de plus de 20 ans portent des lunettes de vue selon un rapport de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, le DRES. Tous les âges sont donc concernés. Des troubles de la vision apparaissent de plus en plus tôt. La cause, l'utilisation abusive des écrans.
Alors sur le côté visuel, il y a en effet le problème de la myopie, qui est une épidémie mondiale. Dans les pays asiatiques sont particulièrement touchés. Les écrans sont pointés du doigt. Mais c'est, en fait, ce sont les écrans, mais pas que. C'est-à-dire que... Il est vrai qu'il sursollicite la vision de près et ceci au détriment de la vision de loin, ce qui va favoriser les troubles de convergence comme la myopie. Mais c'est plus en fait l'exposition à une lumière artificielle au détriment de l'exposition à la lumière naturelle, à la lumière extérieure, qui va favoriser la myopie. Donc c'est plutôt par le biais du fait qu'il délaisse les activités extérieures au profit d'activités intérieures sur écran qui va favoriser la myopie et qui participe à cette explosion de la myopie chez les jeunes en particulier. Les autres problèmes visuels que l'on rencontre sont des plaintes en termes de confort, c'est-à-dire l'impression de sécheresse oculaire, de brûlure, etc., qui sont source de nombre de consultations en ophtalmologie et qui sont liées à des choses qui ne sont pas forcément bien élucidées encore. Les hypothèses, c'est que l'exposition à cette lumière des écrans, la lumière bleue, va par exemple modifier le film lacrymal, sa composition, ou diminuer la sécrétion des larmes, et donc favoriser une sécheresse oculaire et cette sensation d'inconfort qui est très souvent ressentie quand on passe des heures et des heures à travailler, ne serait-ce que devant un écran. Et la dernière chose, c'est que nous n'avons pas de recul quant aux effets de l'exposition chronique et répétée à la lumière bleue des écrans. La lumière des écrans est riche en bleu et pauvre en rouge. Or, sur la rétine, ce que l'on sait, c'est que le bleu est plutôt toxique et le rouge plutôt protecteur. Et ce déséquilibre rouge-bleu pourrait avoir des conséquences à moyen ou à long terme sur la rétine. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui permettent de l'apprécier, mais il y a des études, enfin, celles chez l'homme en tout cas, il y en a chez l'animal. Et les ophtalmologues et les chercheurs qui travaillent sur cette question sont plutôt inquiètes quant à cette exposition importante de très jeunes enfants et d'enfants et d'adolescents prolongés, répétés aux écrans, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner sur leur fonction visuelle à moyen et à long terme.
De Netflix au monde, de Spotify au vieux livre papier, les GAFAM, les vieux médias et les petits nouveaux du divertissement n'ont qu'un objectif, capter votre attention, car elle vaut de l'or.
C'est devenu un mode de communication un peu central dans nos vies. Le fait que les réseaux sociaux aient diffusé n'est pas forcément un problème en soi. Finalement, ça pourrait rester un mode de communication comme un autre, comme l'a été le téléphone à un moment donné. Voilà. Simplement, le modèle économique sur lequel reposent ces réseaux sociaux et les jeux vidéo en ligne aujourd'hui aussi sont basés sur la captation de l'attention, la manipulation de l'attention de l'usager pour qu'il y passe le plus de temps possible et qu'il y revienne le plus possible. Donc à partir du moment où c'est le temps de connexion et les données de navigation qui sont la source de rentabilité d'une plateforme ou d'un jeu vidéo, ça pose problème puisque tout va être mis en œuvre pour qu'il y passe le plus de temps possible. Et c'est en ça finalement que le réseau social et que le jeu vidéo en ligne est problématique. Parce que tant qu'un jeu vidéo, par exemple, se vendait à l'unité et qu'il fallait que ce soit un bon jeu pour qu'il plaise au plus de personnes possible, pour que ce soit un succès, bon, voilà, c'est un jeu vidéo à succès. pour ces raisons-là. Aujourd'hui, c'est plus le même enjeu. Il faut qu'il y ait le plus possible d'utilisateurs en ligne au même moment, le plus longtemps possible, etc. Donc on a déplacé la source de rentabilité et du coup les objectifs des éditeurs.
Servane Mouton est neurologue. Elle est l'auteur de l'ouvrage Humanité et numérique, les liaisons dangereuses, paru aux éditions Apogée. Retrouvez également le docteur Servane Mouton dans un entretien réalisé par l'équipe de Couleurs du Monde sur radio-calade.fr. À la rue ou en hébergement d'urgence, le nombre de personnes sans domicile fixe grandit. 2023, la Fondation Abbé Pierre a publié son 38e rapport sur le mal-logement. Les mal-logés sont plus nombreux et plus fragilisés en 2022, après 2 ans de crise de Covid-19 et l'actuelle inflation. Peut-on mesurer l'évaluation du nombre de personnes à la rue ? Comment expliquer cette extrême pauvreté, un phénomène qui sévit aussi chez nous ? Nous sommes accompagnés de Suzanne, bénévole à la Croix-Rouge de l'unité locale de Villefranche-Beaujolais, et allez joindre par téléphone.
Alors, sur l'unité de la Croix-Rouge de Villefranche, on est 225 bénévoles, mais bien sûr sur l'ensemble des activités. Sur la maraude, il y a une question de limite de capacité dans les véhicules, puisqu'on fait en collaboration avec la halte. Il y a une équipe de 6 personnes et ils alternent pour pouvoir assurer toutes les maraudes.
Et les bénéficiaires ?
Alors, on parle de entre 15 et 25 personnes, globalement, sur une année courante, quoi. Mmh. Après, il y a des gens qui sont redirigés avec la halte, les familles notamment. Et puis, on essaye d'organiser aussi, de porter attention à leur santé. Il y a des rendez-vous qui sont pris avec les médecins de la PAS, précarité, permanence d'accès aux soins et de santé à l'hôpital de Villefranche-Nord, pour assurer le suivi des problèmes médicaux, des problèmes de diabète, des choses comme ça qui nécessitent un suivi régulier. Et en ce moment, les pathologies, ça peut être des bronchites, enfin des choses qui sont liées à l'aspect froid. On essaye aussi de leur proposer d'isoler leur duvet avec des palettes pour mettre en dessous, de façon à ce qu'ils ne soient pas trop, trop près du sol. Il y en a qui refusent. Étrangement, il y en a qui refusent. Ils veulent rester dans leur... Et puis, ils sont mobiles aussi. Ils ne veulent pas non plus forcément être localisés à un endroit précis. Voilà. L'objectif, c'est... On ne peut pas forcément résoudre tous les problèmes, mais on va essayer de faire en sorte que ce petit moment de partage va être une petite pause, une petite respiration dans leur vie.
Est-ce que il y a des personnes qui sont dans la rue, mais qui ne viendront pas vers vous, vers la maraude, on le cache, on préfère rester dans sa voiture, on se débrouille tout seul, voilà.
C'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. Il y a même des gens du public qui nous appellent en disant, voilà, j'ai repéré cette personne à tel endroit, et j'ai essayé de lui parler, elle n'a pas voulu me donner son nom, elle n'a pas voulu me donner son téléphone, elle ne veut pas qu'on l'aide, mais je la sens pas bien, etc. Est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose ? Et c'est vrai que la maraude fait le tour et essaye de repérer justement les autres gens que ceux qu'ils ont dans leur fichier, parce qu'il y a des rapports de maraude qui sont faits. À chaque maraude, il y a le nom des gens qui ont été vus, qui sont entre guillemets des habitués. Ça permet de voir l'évolution de leur situation, mais il y a aussi des gens qui sont qu'on ne peut pas attraper, entre guillemets, qu'on ne peut pas atteindre, parce que justement, comme vous dites, ils se cachent. Par timidité, par mal-être, etc. Et pourtant, l'objectif de la maraude, c'est vraiment de déterminer et de trouver tous ces gens-là. Vraiment. Ils font beaucoup d'efforts pour ça, de façon à ce qu'il y ait une visibilité. Ils ont toujours les gilets, etc. De façon à être visible en se disant, n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, on est là. On va pas vous agresser, mais si vous avez besoin, on est là. N'hésitez pas à venir vers nous. Mais vous avez raison, c'est vrai que les gens, certaines personnes n'ont pas cette démarche. Mmh. On pourrait croire que instinctivement, vous allez aller vers quelqu'un qui vous apporte de l'aide, mais il y a des réticences.
La Fondation Abbé Pierre présentera son 29e rapport sur l'état du mal-logement en France le jeudi 1er février, qui sera largement relayé par tous les médias.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.